La troisième année débute à Poudlard lors d'un événement concert unique. Revoyez le film sur grand écran accompagné d'un orchestre symphonique. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban en concert, les 1er et 2 juin à la salle Wilfrid Pelletier. Billets en vente sur placedesarts.com.
Pour sa 12e édition, du 25 mai au 3 juin, le OFTEA Festival d'Art Vivant propose une programmation des plus audacieuses. Profitez de 10 jours de découvertes en théâtre, danse, performance et nouvelles pratiques artistiques. Venez célébrer avec nous la diversité de la scène émergente montréalaise. Pour tout savoir et découvrir la passe Rush, visitez-nous sur Facebook ou sur oftea.com.
Le Festival Chromatique est de retour du 26 mai au 2 juin prochain à l'Ancienne École des Beaux-Arts de Montréal. Installations numériques, réalité virtuelle, arts classiques, conférences et ateliers en famille. Une foule d'activités présentées à travers les différents volets du festival. Ne manquez pas les deux nuits chromatiques les 26 mai et 2 juin. Un voyage entre rythme, house, techno, disco, pop et afro avec Pascal Project, Seychelles, Jesse Futterman, Bonbon Kojak et plus encore. Pour tous les détails, www.chromatique.ca.
Pool Hip Hop, c'est ta référence en matière de hip-hop sur les ondes de choc.ca. Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentés dans une ambiance décontractée. Le meilleur du hip-hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca.
Bonsoir ou bonjour, c'est Oxmo Puccino et vous êtes sur les ondes de choc. C'est pour ça que ça bouge comme ça.
Switch off your television set immediately unless you are prepared to be really terrified.
Bonsoir, chères créatures de la nuit, bienvenue aux oubliettes. Oh, il me semble que le son est pas fort, hein? Attends une minute. Ah, là, ils ont changé les volumes de console, fait que ça a tout fucké. Bon, je le saurai la prochaine fois. Bonsoir, chères créatures de la nuit, bienvenue aux oubliettes, votre sanctuaire des films étranges et oubliés en VHS. Je me présente votre animateur, maintenant avec une dentition beaucoup plus confortable, Simon Predge. Je suis en compagnie du royaume animal, les plus beaux animaux du royaume animal. Quand ils se pavanent, tout le monde se retourne, le pan de choc.ca. Olivier Bigonnet est avec nous.
Bonsoir.
Bonsoir, comment vas-tu?
Je vais bien, comment vas-tu?
Ah, on se remet de beaucoup de douleurs.
Oui, hein?
ça va mieux, là. On a joué au dentiste, c'est, ouais. C'est fini, là.
J'ai bien aimé ton petit clin d'œil au film de Brian Yuzna, de Dentist, cette semaine.
De Dentist, ben oui.
Ouais.
Et nous ne serons pas seuls dans cette belle aventure aujourd'hui, les amis, parce que ça se peut qu'Olivier se fasse voler le show temporairement, parce que dans ce royaume animal, il y a aussi des oiseaux du paradis. Oh. Et je veux bien parler de Marc Boisclair d'Horreur Québec. Bonsoir.
Salut, ça va?
Ça va numéro un.
Merci.
Ça va numéro un. Ça vous regarde pas, malheureusement, mais j'ai reçu une super belle invitation, genre une minute avant l'émission, puis je suis comme super hyper! Je suis comme, waouh, ça m'a vraiment crinqué. Vous allez en entendre parler si ça se concrétise. D'ici là, ben, vous êtes dans le néant, puis c'est parfait comme ça. On a comme un bel épisode aujourd'hui, ça va être vraiment le fun. On pourrait commencer par quelque chose. Olivier, t'as pas de chronique, mais tu peux quand même nous nommer un film, peut-être. Nomme-nous quelque chose.
Avromac Préparté.
Avromac Préparté, merci beaucoup. On enchaîne avec les annonces cette semaine. On a, il y a une nouvelle émission de podcast qui est lancée à Choc et on est à 2 épisodes puis c'est vraiment le fun. Vous le connaissez. Si vous le connaissez pas, ben il est temps que vous sortiez de chez vous un petit peu. Julien Bernacchi, animateur de l'émission Décidérait à Choc, mais aussi une espèce de sidekick au duo Les Pics Bois et tellement tellement d'autres choses. Bande passante, vous l'avez vu partout, Julien Bernatché, hein, ce personnage haut en couleur. On l'avait déjà reçu à l'émission, si vous êtes pas quelqu'un qui le suit, qui ne savait pas déjà ça, c'est un peu une espèce de Rain Man du box office. Il y a une espèce de passion qui dépasse l'entendement avec le box office, c'est-à-dire qu'on peut lui donner des titres de films, mettons, des 30 dernières années, puis il va te dire combien ça a fait au box office à quelques millions près. Il est assez impressionnant, puis à force de se faire poser des questions là-dessus, ben il a décidé de lancer son show de podcast, un petit show de 20 minutes chaque semaine. Ça s'appelle Box Sophisme. Donc c'est sur choc.ca, c'est des prédictions et analyses des entrées en salle de films de partout dans le monde, et donc animé par Julien Bernatché et co-animé par un qu'on a reçu ici qui va revenir bientôt, Dom Massy des Picbois. Essayez ça, c'est vraiment le fun, puis ça va vous permettre d'apprendre beaucoup. Juste dans le premier épisode, juste dans le premier 20 minutes, j'ai appris une tonne d'affaires, donc c'est vraiment intéressant. On met un peu l'humour de côté pour sortir la passion unique en son genre de Julien Bernatché. Ça vaut la peine. Box Office, écoutez ça. Sinon, pour les fans de Crap, mais surtout de Total Crap, ils fêtent leur 15e anniversaire. Donc, Total Crap, on en a parlé souvent ici. Mm-hmm. Le meilleur du pire de la télé, du cinéma. Donc, samedi, le 2 juin à Montréal, à 21h au Club Soda. C'est le 15e anniversaire de Total Crap. J'y serai et vous devriez y être aussi. Ça va être tout un party. Et pour ceux qui, comme moi, adorent revoir ou redécouvrir des vieux classiques du cinéma, mais sur grand écran, parce que dans le temps, ben des fois, on n'était pas nés, ben Minuit au parc se poursuit encore pour toute la saison. Quand ça va être des films d'intérêt, je vais vous en parler. C'est justement le cas pour début juin. Ils vont présenter au cinéma du parc, donc dans le cadre de Minuit au parc, donc hein, vous avez compris que ça se passe en fin de soirée, hein. Clockwork Orange. Oh. Ça va être le 8, le 9 et le 10 juin, donc à minuit au cinéma du parc. C'est toujours bien le fun. Puis on a assez chialé qu'ils présentent jamais rien de bon ou qu'il n'y a pas assez de vieux films au cinéma. Quand il y en a, faut les encourager, faut leur montrer que c'est une bonne idée puis qu'on aime ça. Ouais, donc je vous invite.
Je te corrige, par exemple, la dernière représentation, elle joue toujours le dimanche, comme vers midi. Fait que ceux qui aiment pas ça, aller voir les films à minuit, il y a quand même une représentation dimanche dans le show.
Ben merci de la précision. J'avoue que je trouvais ça étrange le dimanche de faire jouer un film à minuit. Je trouvais cool. Ouais, ouais. Ben ouais, je trouvais ça weird, mais cool. Ben oui, ben merci
ceux
beaucoup.
Ceux qui sont vieux comme nous, là, qui veulent pas.
Ouais,
ouais. Ouais, parce qu'à minuit, moi, je cogne des clous. Je vais être franc, là. J'ai besoin de me taper 2-3 gourous, là, avant d'aller voir un film à minuit, moi. OK, c'était ça. Ben merci d'avoir été là, cher auditeur. On se revoit la semaine prochaine.
Bye.
Ben non. Si Marc est là, vous doutez bien qu'on va parler d'actualité, hein, du monde de l'horreur en direct de Horreur Québec. Mais avant toute chose, il y a un petit sujet qui m'est popé dans mon newsfeed il n'y a pas super longtemps, puis je me dis, ben oui, pourquoi j'ai jamais parlé de ça aux oubliettes? Moi, c'est un sujet que je trouve super intéressant. J'avais le goût de vous raconter l'histoire de la toute première salle de cinéma de Montréal, le Wimetoscope. On va commencer comme ça, hein, j'ai des beaux extraits. Je pense qu'on a une belle chronique, hein, on passe ça comme ça.
Dès 1896, les équipes Lumière débarquent dans toutes les métropoles du monde. La lutte entre Lumière et Edison se déplace en Amérique. Plus précisément, à Montréal. Un fils d'habitant de l'île Jésus, Léo Ernest Wimet, vient de s'installer à Montréal. Il est apprenti plombier chez son oncle qui tient boutique rue Saint-Laurent. Un jour, le jeune Wimet ouvre la porte sur son destin et l'aventure de notre cinéma. Il assiste aux premiers essais des opérateurs Lumière, à quelques semaines seulement de la première projection publique de vues animées au Canada. Le 27 juin 1896, au Théâtre Palace.
Alors, plus qu'à placer le film dans l'appareil, et nous serons prêts.
Ça vous intéresse, ce jeune homme?
À quoi ça sert, ça?
Vous verrez. Écoutez, prenez l'escabeau et installez l'écran là-bas. Et tendez bien l'écran. Tendez-le bien. Ouais. Voilà.
C'était très frappant de voir une image qui bougeait. À ce temps-là, ben mon Dieu, il n'y avait pas d'acteur, il n'y avait rien. C'était un bonhomme qui soignait les pigeons, et on pouvait voir les pigeons voler. Un train qui rentrait à la gare du Nord, on voyait l'engin arriver.
Ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait du film La conquête du grand écran d'André Gladue, et l'homme à l'accent fort québécois, c'était donc Léo Ernest Ouimet. Léo Ernest Ouimet, c'est un pionnier du cinéma au Québec. C'est un univers qui le fascine. C'est un fils d'agriculteur, donc habitant l'île Jésus, hein, avant que ça s'appelle Laval, pour nos amis français. Laval est l'île juste à côté de Montréal, donc un peu plus banlieusard. Formation d'électricien, il est intéressé par le mécanisme du projecteur avant tout et l'impact que le cinéma avait sur les gens. Il va faire des rencontres et devenir l'assistant du projectionniste du Théâtre national français situé sur Sainte-Catherine, ce qu'on appelle aujourd'hui le Faubourg Amelas. Il va y apprendre les rouages de projection et de la distribution. Le propriétaire du théâtre, Georges Gauvreau, va lui donner de plus en plus de responsabilités. Il va même voyager, entre autres, jusqu'à New York pour aller chercher des films ou pour aller faire réparer les projecteurs. À la longue, il apprend à maîtriser la technique et la mécanique du cinéma, ce qu'il prépare pour son futur de propriétaire de cinéma, distributeur et producteur de films. À cette époque, on est en 1905. C'est Wilfrid Picard qui est le plus illustre représentant du cinéma ambulant. Donc, hein, un peu comme les roadshows aux États-Unis, si on veut. Donc, il se promène de ville en ville avec sa roulotte tirée par des chevaux. Il va projeter surtout des films religieux, des documentaires. Bref, l'Église est contente. Mais Ouimet ouvre sa première salle de cinéma le 1er janvier 1906 en investissant toutes ses économies sur la rue Sainte-Catherine à Montréal. Faut comprendre que oui, il y a eu des projections avant, mais c'était des projections soit ambulantes ou c'était présenté dans des théâtres de burlesque ou des théâtres où il y avait des réelles pièces de théâtre. Là, on plaçait un écran, on installait le projecteur, puis bon, mais c'était pas une salle de cinéma. Donc la première salle de Ouimet, c'était la première salle entièrement dédiée au cinéma. Et donc ces économies, c'est un bien grand mot, hein. On parle ici de 75$, mais en 1906, 75$, c'était beaucoup d'argent. Il l'appelle donc sa salle le Ouimetoscope. Ça fait donc 110 ans. La première salle de cinéma à Montréal. Mais il y a beaucoup de problèmes dès le début. D'abord, la ville va juger que sa salle n'est pas sécuritaire, mais aussi le propriétaire de la salle. La salle est un théâtre loué, la salle Poiré, nommée d'après son proprio, Louis Poiré. C'est un ancien cabaret qui connaissait peu de succès. Il menace Ouimet de le mettre dehors, prétextant qu'il a reçu une offre plus intéressante pour vendre. Donc, Ouimet réussit à trouver l'argent pour le payer en moins de 24 heures et il l'achète. Bref, un homme d'affaires avisé. Pour les raisons de sécurité, il est tout de même forcé de le détruire et de le reconstruire au complet, le théâtre. Un an plus tard, en 1907, il va y construire la toute première salle exclusivement dédiée au cinéma en Amérique du Nord. Auparavant, comme j'ai dit, c'était projeté dans des théâtres réguliers. Mmh. On a un autre extrait d'entrevue ici avec Ouimet qui date de 1965.
J'avais un permis de 1000 personnes.
Est-ce que vous remplissiez votre salle chaque fois?
Surtout le dimanche, c'était 1100 personnes qu'il y avait dedans au moins.
Il y avait du monde debout, quoi.
Du monde debout sur les murs.
Quelle sorte de gens qu'il y avait là?
Et il y avait de la bonne classe. Il y avait de la bonne classe. Jeudi après-midi, il y avait des jeunes filles de couvent. Seulement, dès mon commencement, en 1906, j'avais fait une entente avec les frères du Mont-Saint-Louis, des journées de congé qui amènent des élèves.
Est-ce que dans ce temps-là, comme maintenant, il y avait des amoureux qui s'assoyaient très près l'un de l'autre?
Eh bien, non. Une personne qui rentrait seule à la salle n'avait pas le droit de s'asseoir à côté des femmes.
Hey, ça, c'est une autre époque. Hein? Les hommes ne peuvent pas s'asseoir à côté des femmes d'un coup que ça se touche. Mais hein, c'est donc aussi une assez grande salle pour l'époque, donc contenant environ 1000 places. Il va rapidement avoir un très grand succès. Les billets se vendent en 10 cents et 30 cents. Donc, il y avait l'air climatisé, ce qui était rare à l'époque. Et les billets à 10 cents étaient destinés aux pauvres et les gens de plus basse classe sociale, disons. Donc, ils étaient dans des sections différentes de ceux qui avaient payé 30 cents l'entrée. Ce qui est une bonne idée, comme ça, ça permet l'accès à tout le monde. Mais son succès se cache probablement dans sa programmation. Il fait d'excellents choix. Il sait ce que les gens aiment. Il y a déjà de très bons contacts avec Thomas Edison, entre autres. Comme les films sont muets, un commentateur accompagné d'un pianiste anime les projections à l'époque. Il comprend vite aussi que les gens aiment voir des images d'eux-mêmes. Hein? Ça, hein, on va se le dire, c'est le secret du cinéma québécois. Hein? On dit souvent un film de petit peuple, mais c'est ça. C'est qu'on aime se voir à l'écran. Donc, c'est ça la clé de son succès. Il programme beaucoup de films d'actualité pour que les gens se voient à l'écran, pour qu'ils s'identifient. Des films qui leur montrent leur réalité. Il va éventuellement même en produire de ces films d'actualité pour nourrir le marché dont il a pignon sur rue, en quelque sorte. Rendu en 1910, il y a une quarantaine de salles de cinéma à Montréal, une dizaine à Québec, pour un grand total d'une centaine à travers toute la province. Au Wimettoscope, il présente des films québécois, mais aussi de Paris et New York. L'Église va éventuellement s'objecter à Wimette et vont s'acharner sur son cinéma, en particulier Monseigneur Bourchesi. Mais c'était dans l'air du temps. On disait aux bons paroissiens catholiques de ne pas aller dans les salles de cinéma ou les théâtres le dimanche parce que c'était le jour du Seigneur. Bien sûr, la grande majorité des gens y vont quand même parce que bien souvent, en particulier les petits travailleurs, le dimanche était leur seule journée de congé de la semaine. Donc, c'était leur seule possibilité pour profiter du cinéma ou des spectacles, en fait. Mais c'est aussi que Ouimet est un personnage, un des personnages les plus visibles de cette bataille contre l'Église. Il va le payer cher, d'ailleurs, mais il se bat jusqu'au bout, et je veux dire par là, jusqu'en Cour suprême. C'est pas rien. C'est finalement en 1912 qu'on brise la loi interdisant la présentation de spectacles le dimanche, parce qu'il y avait vraiment une loi à ce niveau-là, à cette époque. Évidemment, c'est un triomphe dans un sens, mais en même temps, il est étiqueté comme un ennemi de l'Église catholique. Oui. Donc, les prêtres montréalais dénigrent constamment le travail de Léo-Ernest Ouimet, puis la bourgeoisie francophone va s'en éloigner à cause de ça. On raconte que Ouimet s'intéresse plus à l'argent qu'au spectacle et on le boude. Mais le public de classe moyenne, de son côté, la classe moyenne, eux, restent associés à Ouimet. T'sais, ils veulent du spectacle, puis on s'entend que les classes plus basses vont délaisser un peu plus l'opinion de l'Église à l'époque. Là. Donc, il en vend quand même des billets de cinéma. Le Wimettoscope fonctionne très bien. Mais c'est environ à cette époque qu'il commence à produire ses petits films d'actualité. Donc, pour comprendre ce que c'est un peu l'ancêtre du téléjournal, si on veut. L'ancêtre des nouvelles à la télé. C'est des courts-métrages à mi-chemin entre le documentaire et le reportage pour documenter la vraie vie, l'actualité. Et le cinéma était le seul endroit pour voir ces films du monde. Hein, d'abord de chez nous, mais aussi d'ailleurs. Écoutons un extrait d'une entrevue avec Ouimet qui nous parle de son court film La chute du pont de Québec de 1907 qui va devenir un de ses films les plus célèbres et qui a été vu dans le monde entier.
Le pont de Québec était finalement accroché, puis j'avais demandé à mon caméraman de monter sur le toit, sur la pointe, pour prendre au travers des gardes-là, pas capable d'y aller. Je disais, moi, essuyez de tennis, moi, y aller. Et puis j'ai monté sur toi. Et ça, monsieur, il y a des 1000 personnes qui l'ont vu. Mais la travée du centre, bâtie dans le cours, à 3000 plus loin que le pont de Québec, quand elle a levé là, sur les barges, là, et puis DV, elle a accroché ses togs, puis qu'il l'a emmené dans le courant. C'est la plus belle scène que j'ai jamais vue de ma vie, puis j'en reverrai jamais aussi belle.
Je le trouve. On comprend mal son même oui. Pour même. On va se le dire, oui, là, cher auditeur français. Même pour nous Québécois, on comprend pas toujours bien avec sa façon de parler, comme s'il y avait une patate dans la bouche. C'est ça. Les Québécois ont toujours eu un slang, si on veut, assez difficile à suivre quand on n'est pas Québécois, mais à l'époque et en région, surtout, c'était pire. Donc, même moi, il y a des bouts que je perds un peu de son explication, mais en fait, il explique comment il a tourné la fameuse scène du pont de Québec. Puis, dans le fond, ce qu'il explique, c'est qu'il se faisait tenir par les souliers pendant qu'il grimpait pour aller tourner son plan, risquant sa vie pour une shot. Puis, il dit, mais c'était la plus belle scène que j'ai vue de ma vie, puis j'en reverrai plus jamais des plus belles, tu sais. Je le trouve touchant, pour vrai, dans ces petits extraits-là. Donc, il va filmer un événement majeur par la suite dans l'histoire de l'Église catholique au Québec, le fameux congrès eucharistique en 1910. Ah, tu te rappelles, Olivier? Donc, mais il va filmer ça un peu pour remonter dans l'estime de l'Église. Il va le présenter gratuitement pour les personnes handicapées, les membres du clergé. Un film, donc, qui va avoir énormément de succès. Il va aussi produire un film intitulé « La vie d'un pompier ». Il extrait une image du film. Je veux quand même être clair là-dessus, c'est quand même très intéressant. Son film La vie d'un pompier va prendre une image fixe du film et il va s'en servir pour faire des affiches. Et c'était tout nouveau, ça. On n'avait jamais vu ça avant. L'idée de prendre une image du film et d'en faire la promotion avec des affiches, c'était très nouveau. Au Canada, c'est un des premiers à avoir fait ça. C'est pas rien. Il a aussi, à sa manière, inventé le concept de bande-annonce parce qu'il va extraire une scène du film et la présenter en salle en disant, à la fin, avec un petit texte, « Ne manquez pas la vie d'un pompier dès la semaine prochaine sur cet écran. » Ça aussi, c'était nouveau. C'est comme les premières essences de la bande-annonce. Puis ça a l'air niaiseux dit de même, mais ça existait pas. T'sais. Faut que quelqu'un le fasse en premier. Hein. Une autre de ses inventions est le « wagon laboratoire ». Il va s'associer à une compagnie de chemin de fer pour pouvoir tourner, monter et développer ses films rapidement de partout au Canada. C'est-à-dire qu'il a monté un studio dans un wagon de train pour pouvoir faire le tour du Canada et ailleurs en train pour aller faire ses tournages. Puis pendant que le train revient, il est déjà en train de monter le film dans le wagon puis les développer. C'est intense, là. Mais donc, grâce à ça, il va tourner Le Grand Feu de ce qu'on connaît comme l'explosion d'Halifax qui a eu lieu le 6 décembre 1917 en Nouvelle-Écosse, quand deux navires ont fait collision. Un des deux transportant des munitions destinées à l'Europe, qui était en guerre à ce moment-là. Un de ses opérateurs de wagon laboratoire était justement à Halifax au bon moment. Donc, ces images n'ont pas juste été un grand succès en salle. Ils ont même été projetés en cours durant le procès. Grâce au wagon laboratoire, donc, ils pouvaient filmer et monter tout ce qu'ils voulaient en un temps record. Mais éventuellement, il veut être au cœur de l'action Hollywood pour produire encore plus.
J'ai eu l'opportunité d'aller sur des plateaux de production de vues animées à Hollywood. Par exemple, vous prenez Mary Pickford. Vous savez que la mère Mary Pickford, Madame Smith, était l'homme d'affaires de Mary Pickford.
Bon, et sa mère, elle aimait pas qu'on mette des caméras hautes.
Elle ne voulait pas avoir un caméra plus haut que la tête de sa fille.
C'est fascinant. J'aurais aimé ça, j'osais avec une soirée, hein, prendre un verre, puis raconte-moi tes histoires. Mais donc, Ouimet, il voit grand. Il n'a pas la conception du Québec comme étant son seul terrain de jeu. Il veut le monde. C'est à Hollywood, donc, qu'il réalise son premier long métrage à cause de la distribution, même s'il passe comme un étranger canadien-français avec un accent incompréhensible. Il connaît et fréquente les têtes dirigeantes de l'industrie du cinéma. Donc, il n'a pas trop de misère à faire sa place. Son premier long métrage s'appelle « Pourquoi se marier », mettant en vedette André Lafayette en 1923, et un film propageant les belles valeurs catholiques du mariage, sans surprise. Toutefois, ça va lui coûter cher parce que le film n'aura pas tellement de succès et sera très peu diffusé. Ce désastre financier va le fragiliser économiquement et on peut dire que c'est le début de la fin pour l'empire de Léo Ernest Ouimet. Il est quasiment ruiné, il est forcé de vendre son cinéma en 1922 et la salle va fermer officiellement ses portes 2 ans plus tard. Donc, mais le Trust Edison, qui contrôle de plus en plus le marché et la distribution des films de studios américains, est une des raisons majeures dans la chute de son empire cinématographique. Il va en vouloir beaucoup aux Américains parce qu'il peut pas obtenir et présenter les films qu'il veut dans ses salles. Ne pouvant plus... je vais juste faire une parenthèse. Mm-hmm. C'est-tu moins ou plus ça change, plus c'est pareil?
Oui, mm-hmm. Pas mal.
Je vais me contenter de ça. Ne pouvant plus mettre la main donc sur les grands films à succès populaire comme les Charlie Chaplin par exemple, ben il y avait de moins en moins de monde dans ces salles. Il est arrivé relativement la même chose avec le cinéma de l'Exentrice, hein, par exemple, oui, qui a fermé ses portes en 2015 pour des raisons similaires. Mm-hmm. Donc il pouvait pas obtenir les grands films à succès, il ne faisait plus d'argent, ils ont dû mettre la clé dans la porte. 1933, il revient d'Hollywood, retour à Montréal et sans le sou. Il a perdu deux de ses trois enfants aussi à cause de maladies pulmonaires et va se divorcer de sa femme qu'il accuse pratiquement d'avoir tué ses enfants, ce qui est faux. Mais tu sais, bref, la vie familiale s'est démolie aussi à cette époque-là. Il exploite tout de même le marché du cinéma parlant français en le distribuant pendant quelques années, mais il va faire faillite à nouveau en 1935 après une poursuite, après qu'un feu ait tué deux personnes dans un de ses théâtres. On cesse de chauffer les salles en date du 1er mai, mais le printemps 1935 était particulièrement froid. Ouimet avait installé une petite chaufferette sous son bureau. Il a quitté un moment, mais à son retour, il était trop tard. La chaufferette avait causé un incendie. Il va plus tard enseigner au séminaire de Sainte-Thérèse et les films qui ont été réalisés par Ouimet sont aujourd'hui disparus. En 1967, le théâtre Le Canadien, qui occupait le même local que le premier Ouimetoscope, reprend son nom à nouveau, le Ouimetoscope, avec une plaque commémorative en l'honneur de Léo Ernest Ouimet. Ils vont y présenter des films répertoires jusqu'à sa fermeture en 1992. Tout ce qui reste en mémoire du Ouimetoscope aujourd'hui et la plaque commémorative sur le building. Léo Ernest Ouimet décède donc le 2 mars 1972 à l'âge respectable de 94 ans. Et dernière nouvelle sur le Ouimetoscope, durant l'été de 2011, on annonce finalement que le bâtiment du Ouimetoscope est converti en 19 condos publicisé, commercialisé sous l'étiquette du Ouimetoscope quand même. Garde la plaque. Toute la promotion était faite autour du fait que c'était le premier cinéma. C'est quand même intéressant, mais bon, c'est sûr que ça a plus la même essence.
Ah, c'est quand même triste, moi, je trouve.
C'est quand même très triste. Mais c'est que pour les catholiques, ils ont dû broyer aussi quand ils ont constaté que les églises étaient transformées en condos. Ouais. D'ailleurs, sur ce, je citerai un homme que je respecte plus que tout au monde, Tom Waits, qui un jour dit: On a demandé à Jésus de descendre la croix. On avait besoin du bois pour fabriquer des condos.
Oh my God.
Sur ce, ce fut la triste fin du beau rêve. C'était l'histoire du Ouimetoscope. On va prendre une petite pause musicale avec une chanson bien de son temps qui en dit long, de 1949, Les Nuits de Montréal par Jacques Normand. Et on vous revient tout de suite après avec les actualités d'Horreur Québec aux oubliettes sur choc.ca.
On a de tout temps chanté les nuits de Paris, la place Pigalle, Montmartre, les Halles. Dans le monde entier, on sait que là-haut, c'est beau. Oui, mais ici, on a aussi des filles jolies, des cabarets, des boîtes de nuit, pour y chanter dans la gaieté des airs légers. J'aime les nuits de Montréal, pour moi ça vaut la place Pigalle. Je ris, je chante, la vie m'enchante, il y a partout des refrains d'amour. Je chante encore, je chante toujours, et quand je vois naître le jour, aux petites heures vers ma demeure, je vais heureux à Montréal, c'est merveilleux. Mais il se fait tard, non plus tôt, il est tôt, la rue a mis son blanc tapis. Jamais comme ce matin, je n'avais remarqué combien la neige pouvait glisser. Ah, déjà 7 heures. Bonjour facteur, bonjour laitier, vous commencez votre journée, moi je vais me coucher. J'aime les nuits de Montréal, pour moi ça vaut la place Pigalle. Je ris, je chante, la vie m'enchante, il y a partout des refrains d'amour. Je chante encore, je chante toujours, et quand je vois naître le jour, aux petites heures vers ma demeure, je vais heureux à Montréal, c'est merveilleux. Les bruits de la ville et le soleil m'éveillent et je m'étire dans un soupir. De ma fenêtre, j'aperçois la cohue dans les avenues et dans les rues. J'ai le teint blafard, un peu le cafard. Oui, mais ce soir, lorsque la nuit viendra, pour moi tout renaîtra. J'aime les nuits de Montréal. Pour moi, ça vaut la place Pigalle. Je ris, je chante, la vie m'enchante. Il y a partout des refrains d'amour. Je chante encore, je chante toujours. Et quand je vois naître le jour, aux petites heures vers ma demeure, je vais heureux à Montréal. C'est merveilleux.
From the creator of Halloween and the star of The Exorcist, Linda Blair in Hell Night. Garth Manor, where the unseen, the unspeakable, hides its terror in cobwebbed corridors. Linda Blair, Vincent Van Patten, and Peter Barton in Hell Night. From Compass International, rated R, under 17, not admitted without parent.
Et c'est l'heure des actualités du site Horreur! On y prend goût quand
ça
même!
Ça marche toujours, à chaque fois.
Oh yes! Qu'est-ce qui se passe de beau dans le monde de l'horreur cette semaine? Il me semble qu'il y a eu bien des nouvelles, bien des affaires. Hein?
Il y a beaucoup de nouvelles, oui. Si tu me permets, je vais quand même commencer avec les mauvaises nouvelles, comme tu vas te débarrasser pour.
C'est parfait, pour on pourra finir en force.
Pour la fin du show. mais je ris, mais c'est quand même deux nouvelles tragiques. On a perdu deux grands de l'horreur dans les derniers jours. En fait, il y a l'actrice canadienne Margot Kidder qui est décédée le 13 mai dernier à l'âge de 69 ans. Donc, quand même relativement
c'est jeune.
Puis on n'avait pas, c'est un peu une surprise parce qu'on avait, on savait pas que si elle était malade ou si. D'ailleurs, on connaît toujours pas la cause de sa mort.
C'est dans son sommeil. C'est morte dans son sommeil. Est-ce que j'ai lu
C'est vrai.
Son sommeil, oui.
Ah ok.
Un petit peu comme c'est quoi Dolores, qui est juste morte dans son sommeil, qui est juste une mort naturelle.
Ok.
De je dis Dolores, mais voyons. C'est quoi déjà son... La chanteuse des Cranberries.
Quelque chose.
Donc oui, c'est... Comme tu dis, moi aussi, je m'attendais à ça doit être le cancer, quelque chose comme ça. Mais non, elle est morte dans son sommeil.
Ça arrive.
Ben oui, en effet.
Ça arrive de meilleure famille. Excusez, je ne veux pas te déconcentrer.
Non.
C'est tragique, là.
Ben oui, c'est tragique. Effectivement, c'est vrai que c'est triste.
Bon, on la connaît surtout pour son rôle dans les films, les premiers films Superman de Lois Lane. Mais nous, les fans d'horreur, on la pleure surtout pour ses rôles dans The Amityville Horror de 1979 et Black Christmas de 1974, le film canadien de Bob Clark. Elle a aussi joué dans d'autres films d'horreur. Ben, en fait, pas moins connu parce qu'on parle aussi de Sisters de Brian De Palma, qui est un film à voir si vous n'avez toujours
un
pas.
Très bon. Si mon préféré de Palma.
Ouais, c'est un des très bons. Ben, des films aussi plus underground, genre comme The Clown at Midnight, Dead Foretold, et puis plus récemment, elle a aussi joué dans le Halloween 2 de Rob Zombie.
Ah oui, c'est vrai.
Tu vas être content.
C'est vrai.
Si je devais être content pour.
Mais je sais à quel point t'aimes les films de Rob Zombie, puis comment t'aimes Halloween 2.
Mais je n'ai à ce jour jamais encore vu Halloween 2. Puis
bon, ça s'en dit long.
Ça n'a pas de lien avec la nouvelle, mais je me fais un devoir de le voir avant le prochain Halloween parce que je veux comme tout.
Oui.
Boucler la boucle.
Oui, ça n'aura pas de lien, mais c'est pas grave. Puis, c'est mon petit devoir.
Ça serait mentir de dire que c'est une comédienne que je connais bien, outre les rôles qu'elle a joués. Mais quand ça a sorti, ben. Il semble qu'on la décrive, on l'a décrit beaucoup comme une femme très forte qui était pas facile à diriger parce que quand ça y tentait pas, ça y tentait pas.
C'est vrai.
Puis pour l'époque où elle a travaillé, c'était pas commun.
Non,
il y en avait, mais...
Une grosse période de drogue, d'alcoolisme aussi, là, c'était...
Ah oui, il y en a pas eu... c'est vrai qu'elle était pas facile.
80, c'était tout un numéro.
Une grande actrice, mais marquante à l'extérieur du décor aussi, c'est ça.
Il y a le réalisateur aussi de We Are Still Here que je suis sur Twitter parce qu'il y a toujours des histoires vraiment intéressantes, qu'il y avait une histoire assez particulière à raconter à propos de cette actrice-là, qui disait que où elle habitait, qui était une espèce de maison recluse dans la forêt, tout ça, il y avait beaucoup de loups à proximité.
Ah ouais.
Puis les voisins se plaignaient des loups, mais Margot, elle, aimait particulièrement les loups et les nourrissait avec de la viande.
Wow! Okay.
Puis... Évidemment, les voisins étaient pas très contents de ça. puis paraît-il qu'elle avait partagé, c'est un peu macabre, mais c'est dire à elle que lorsqu'elle allait mourir, elle voulait être donnée
au loup.
Au loup.
Wow.
Ouais.
C'est Mary Shaw. C'est la Blair Witch.
Ah oui.
C'est Blair Witch. Ouais, ouais. Mary Shaw, ça ressemblait toujours un petit peu à Margaret Kelly.
Ah ouais. Ben, ouais. Paix son âme. Merci pour ton cinéma.
Il y a un autre grand de l'horreur qui nous a quittés, mais qui travaillait un peu plus dans l'ombre. Un des maîtres de l'illustration d'affiches.
Ah oui, 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 oui.
Bill Gold, qui lui est décédé à l'âge quand même respectable de 97 ans. Je le mentionne quand même parce qu'il a réalisé quelques-unes des affiches les plus marquantes du cinéma, comme celle de Casablanca, mm-hmm. A Clockwork Orange, dont on parlait justement un petit peu plus tôt,
ouais.
Et puis surtout The Exorcist.
Ah
ouais,
c'est lui ça. Okay.
Des images simples, mais dont on se souvient, qu'on associe.
J'ai jamais vu le film Casablanca, puis j'ai l'affiche en tête, on les connaît. Là.
Exactement. Il a réalisé plus de 2000 affiches dans sa carrière. Dans le cinéma d'horreur, on parle, il a collaboré avec... il a fait une affiche pour Dale M. for Murder, pour mm-hmm. Monsieur Hitchcock. Deliverance, le film canadien.
Oui.
Il a fait aussi celle de Exorcist 2. The Invasion of the Body Snatcher, oui. La version 78. Et puis,
c'est vrai qu'elle est belle, cette affiche-là, en plus.
Oui,
hein?
Oui, très belle. Puis The Fun House, le
oui, film, oui, oui, oui.
Ben oui.
Un peu plus pour en nommer quelques-uns.
Cool. Ben cool.
Cool.
Merci pour tes illustrations.
Ben oui, on se remémore un peu son travail.
Ah, ben c'est cool. Rappelle-moi son nom.
Bill Gold.
Bill Gold. Cool. Ben cool.
Oui.
On dirait que je sais pas quel autre mot. Je dis cool parce que je suis comme merci de l'information, mais en même temps c'est pas cool là.
Ben
en tout cas, on se comprend.
Il y a la on passe à un autre sujet. Vas-y. Complètement. On parle du Festival de Cannes
oui, hein?
Qui s'est terminé le 19 mai dernier, donc la 71e édition du festival, et qui dit Cannes dit toujours une petite controverse ou deux ou trois à quelque part.
Des fois 4-5, il y en a toujours.
Ne serait pas complet sans. on sait que Lars von Trier était de retour cette année, celui qui avait été banni depuis son dernier film
Melancholia.
Ouais, exactement. Ouais. Pour avoir dit des choses un peu avoir fait des parallèles avec
Hitler. Ouais.
Exactement, donc qui était de retour cette année pour présenter son film d'horreur The House That Jack Built, mm-hmm. En
ouais.
grande première mondiale. Donc c'était une projection qui était très très attendue. Puis moi personnellement, j'ai jamais dans ma petite carrière dans le domaine, j'ai jamais entendu quelque chose du genre, mais on dit qu'une centaine de personnes n'ont pas pu terminer le film, donc sont sorties avant la fin.
Une centaine, c'est vraiment une centaine.
Une centaine.
Ouais.
En fait, c'est beaucoup, là.
C'est quand même beaucoup. Faut dire qu'il y avait plus d'une projection.
Okay.
Des fois, on peut jouer avec...
OK, c'est pas à la première,
non,
il y a eu 100 personnes.
On en parlait, moi, puis Simon, okay. On lui dit, ça a-tu vraiment été... Bon, on a vu 5 personnes sortir, puis là, c'est bouche-oreille que c'était 100 personnes qui sont sorties, mais...
Des fois, on peut jouer plus, un petit
ouais.
peu.
OK, mais c'est plusieurs présentations, là, je peux comprendre.
Mais,
un petit peu plus.
Mais tout de suite après la première, par contre, il y a déjà, évidemment, les critiques en 140 caractères qui sortaient sur Twitter, donc qui décrivaient le film comme étant... dégoûtant, prétentieux, vomitif, tortueux et pathétique.
Donc, ça va être excellent.
Probablement.
On dit qu'il y a des scènes qui impliquent de la torture de femmes et de la torture enfantine, particulièrement difficile à regarder.
Mais c'est ça qui brasse. Ça a l'air que c'est ça qui brasse. Puis tu regardes la bande-annonce, puis tu comprends, tu le vois venir, tu le sens que ça va être élevé.
Ben de toute façon, si on connaît un peu le moindre mal réalisateur,
ouais,
on sait...
On
sait qu'il...
Il s'empêche pas.
Exactement. Par contre, néanmoins, il y a The Hollywood Reporter qui a quand même noté un 6 minutes d'ovation à la fin du film pour ceux qui ont réussi à le tolérer jusqu'à la fin, donc c'est quand même pas négligeable.
Ah ouais, tu vois, ça, ça a pas fait les gros titres?
Non, c'est dans les textes que je lisais, c'était tout le temps 3e, 4e paragraphe.
Ben oui, ils le disent pas, c'est pas du sensationnalisme.
Non, c'est moins le fun.
Mais merci de le mentionner aux oubliettes.
Il y a le site Cineuropa qui a interrogé le réalisateur à ce sujet pour savoir ce qu'il en pensait de ces dizaines et de ces dizaines de gens qui sont sortis. Évidemment, Lars von Trier avait quelque chose d'assez intéressant à dire sur le sujet. Il a répondu « Ça m'a relaxé. C'est important de ne pas être aimé par tout le monde, sinon on sait qu'on a échoué. Je ne sais pas s'ils ont assez détesté par contre. Si ça devient trop populaire, le film, ça va devenir un problème pour moi. La réception semble avoir été correcte toutefois. Pour ma part, je dois dire que ça a été un plaisir à écrire. Je n'ai jamais tué personne, mais si je le fais un jour, ça sera un journaliste.
Oh my god.
Intéressant.
Il parlait un peu de sa relation avec les tueurs en série, donc
il aime se brasser, il fait exprès là, lui.
Bah oui, donc c'était sa réplique.
Qui aurait fait un autre métier, aurait été un excellent serial killer.
Il dit et tout
là,
le temps
c'était,
ça.
Là, là mon dieu. C'est outrage et tout. Puis je me dis, bon, prenez-en puis laissez-en.
Mais oui, il s'amuse avec ça. À chaque année, on dirait qu'il s'est préparé une coupe de ligne comme ça pour Cannes. À chaque année, c'est
ça. Calmez-vous un peu. Puis c'est un petit peu la même chose au niveau de la réception de son film où j'en discutais tout à l'heure avec Simon Gaspard Noé. Lui a dit qu'il s'est retrouvé à rire pendant la présentation du film parce que c'est un film qui est basé sur un frame de comédie un peu, même si on va voir du stock élevé. Pareil comme que quand moi j'ai vu Nymphomaniac, je m'attendais à quelque chose de rough comme Melancholia, Antichrist ou tout ce qu'il a fait avant. Là. Mais non, il est vraiment tombé dans... Écoute, c'est comique par bout, là, Nymphomaniac, puis c'est un sujet lourd. Supposément que c'est dans la même veine qu'il y a un humour noir, on s'entend, là, mais il y a un humour là-dedans. Donc moi je suis hype un peu là.
On a tout hâte de le voir.
On est tous curieux puis évidemment.
Puis comme on se disait, excuse-moi je te coupe.
Bah non mais c'est peut-être ce que t'allais dire
peut-être.
Aussi.
Peut-être. Est-ce qu'on se disait
les
avant
gens qui sortent, c'est toujours très vendeur pour un film. Oui. Ça arrive.
Exactement.
Ça arrive à Fantasia, ça fait les nouvelles un peu partout sur Internet après. Donc.
Puis comme on se disait juste avant de rentrer en onde, de toute façon, y a-tu vraiment un film de Lars von Trier qui vous a déçu au point que vous avez détesté? Ben non.
Aucun.
Ouais, aucun.
Déteste. Non.
Y a des films qui nous accrochent moins, c'est normal, mais aucun film qui déçoit de Lars von Trier.
Non, c'est jamais arrivé.
Il y a un autre film d'horreur qui a fait parler à Cannes, cette fois-ci dans la sélection Un certain regard. Ceux qui connaissent pas, c'est une sélection qui est à part de la sélection officielle, qui met en perspective un cinéma qui est un peu plus original et audacieux, puis qui récompense les cinéastes un peu moins connus du milieu. Donc, il y a le film, un film d'horreur qui s'appelle Border. Attendez, je cherche du pays. C'est un film scandinave, suédois. Donc, c'est un film suédois qui est réalisé par Ali Abbasi qui a remporté le prix donc dans cette catégorie-là. Le prix qui est un prix qui est quand même assez prestigieux. Ce qui est intéressant ici, c'est que le film est adapté d'une nouvelle de John Arjvid Lindqvist qui
c'était mon accent Lindqvist
qui est en fait l'auteur du best-seller qu'on connaît bien Let the Right One In.
Quand même.
Donc là, ça allume quelques cloches.
Oui, parce que là, on t'a perdu.
Donc le film parle d'une relation entre une douanière et l'homme qu'elle enquête. C'est un peu vague encore le synopsis. Il y a la journaliste de Variety. Je passe du suédois à l'anglais, là, ça marche pas dans ma bouche. Alyssa Simon, qui a décrit le film comme étant un intelligent mélange de romance, de film noir nordique, de réalisme social et d'horreur surnaturelle qui défie et renverse les conventions des genres au pluriel. C'est un film qui navigue dans plusieurs sphères. Donc, ça a été acquis récemment par Neon, qui va être distribué, et ça va être éventuellement distribué aux États-Unis et au Canada. On ne sait pas quand encore, mais très prochainement.
cool. Je pense qu'il y a quelque chose aussi à Cannes qu'Olivier avait le goût de jaser. Oui. Il est arrivé quelque chose en speech avec Asia Argento. Tu peux-tu nous conter ça?
Ben oui, comme plusieurs ont vu, ben Asia Argento s'est fait donner le micro. Je me souviens pas avec quelle actrice ou qui elle était. Mais
ceux qui ne replacent pas, hein, on parle de la fille du grand réalisateur Dario Argento.
Qui est réalisatrice, ouais, mannequin, actrice, DJ, chanteuse, name it, c'est une artiste. Donc, où finalement, ben, elle dit que bon, le fameux mouvement MeToo, hashtag MeToo, qui est pas fini. T'sais, on savait, c'est un trend, hein, on a parlé pendant un bout de temps, puis elle ramène, elle dit.
C'est important.
Son message est assez direct. C'était un moment, je pense, qui va rester gravé à jamais à Cannes, parce que la vidéo où on voit le public qui a un malaise, qui elle rappelle, nous savons qui vous êtes, on vous a pas oublié, il y en a dans la salle présentement. Donc je vais
on a l'extrait.
C'est assez puissant.
Je veux dire, là c'est un extrait qu'on a trouvé à la va-vite. Je pense qu'il est pas optimal parce qu'il y a la traduction française par-dessus, puis les deux volumes semblent égaux. Fait que oui, regarde. Mais on va s'en sortir, on a quand même une bonne idée de ce qui s'est dit là.
Puis juste avant bon qu'on parte, juste pour dire que moi je vous quitte, j'ai
ouais, Olivier, il y a un engagement, ça va au cinéma, historieux.
Bonne écoute.
Bye Olivier.
Mais c'est ça. À la semaine prochaine.
De toute façon, on a hâte de t'entendre parler, Olivier, la semaine prochaine, c'est à ton tour, une petite chronique.
J'ai fait une
là.
Chronique, promis.
Yes. OK, on va écouter justement ce qu'Aja a raconté.
En 1997,
j'ai été violée par Harvey Weinstein, ici même à Cannes.
I was 21 years old.
J'avais 21 ans.
This festival was his hunting ground.
Qui n'ont jamais dénoncé ces faits. Et parmi vous, dans le public, il y a ceux à qui on devrait pointer le doigt à cause de leur comportement envers les femmes, un comportement indigne de cette industrie.
Donc, bon, on a perdu quelques petits bouts, mais en gros, c'était assez... ça a brassé à cabane à Cannes. Puis, je pense que c'était la place pour. Je suis bien content
absolument
qu'elle l'ait faite. J'espère qu'il y en a plusieurs qui sont sentis petits dans le culotte. Qu'est-ce que t'as d'autre pour nous autres?
Écoute, connais-tu Slax? Slax avec 3X, ça dit-tu quelque chose?
Je connais, je n'ai pas vu.
Ok, ben c'est normal que tu l'aies pas vu parce que c'est pas encore tourné.
C'est pas encore tourné?
Non.
Ben attends, c'est inspiré de quelque chose. C'est pas. Je vais te laisser aller puis je vais essayer de spotter pourquoi je connais ça.
Écoute, c'est un nouveau slasher québécois qui a été annoncé récemment. En fait, qui a reçu.
Ah, je pense que j'ai juste vu un post passer. C'est pour ça que ça
oui,
m'a.
Oui, ça okay se peut. En fait, ce que t'as vu, c'est l'affiche teaser qui a été dévoilée.
Ah, c'est ça. Ok, ok.
Pour célébrer en fait la part financière qui a été accordée par la SODEC pour ce projet-là.
Ah, good.
Donc on parle.
Attends, redis cette phrase-là parce que hein, vous le savez à la maison, je fais souvent la promotion du cinéma d'ici, oui, à quel point c'est difficile de le promouvoir, mais aussi difficile de le produire. J'aimerais que tu redises ta dernière phrase par rapport à la SODEC.
Donc,
on va même couper ça, vas-y.
Slax a reçu l'apport financier de la part de la SODEC.
Tabarnouche, j'arrive pas souvent à ça qui finance du cinéma d'horreur.
Un slasher
en plus.
Une
là
comédie très gore.
Hey, mais on écoute, est une belle lancée. Je pense que le cinéma de genre est à la mode au Québec.
Oui,
là.
Oui, je pense qu'on
j'espère
peut,
que ça va bien rouler.
Je pense qu'on peut remercier peut-être Les Affamés de Robin Aubert, qui est un oui beau succès à l'international.
Ben, par la bande, Turbo Kid aussi.
Oui, oui, absolument.
On est bien chanceux en ce moment.
Absolument. Donc, je te parle de Slax, en fait, avec 3X, je le répète, qui est réalisé par la cinéaste montréalaise Elsa Keffar, qu'on connaît pour Go in the Wilderness ou Graveyard Alive. Ça devrait sonner
ouais,
des
ouais,
cloches.
Ouais.
C'est un film qui a été co-scénarisé également avec sa collègue de Graveyard Alive qui s'appelle Patricia Gomez Zlatar. Et puis, ça nous raconte l'histoire d'un jeans possédé, une paire de jeans.
Okay.
Donc, qui est ramené à la vie pour punir les pratiques peu scrupuleuses d'une entreprise de vêtements à la mode. Donc, le jeans est livré au magasin phare de l'entreprise. Ça donne à un carnage sanglant dans le personnel qui est alors enfermé dans le magasin pour la nuit afin d'installer la nouvelle collection qui ouvre le lendemain. Le décompte des morts monte, le personnel paniqué se disperse et la lutte pour la survie commence. Donc, on est dans un univers un peu, moi, ça me rappelle rappelait un peu, je sais pas si tu as vu Rubber de...
Oui, mais oui.
Ça me rappelle un Tire qui revient à la vie. Là, par contre, contrairement peut-être au film de dont je parlais, Rubber, il y a quelque chose, il y a des thèmes un peu plus précis qui sont, bon, en fait, on parle de surconsommation, mais également de l'image du corps de la femme. On dit que l'héroïne du film, parce que il y a une vendeuse en fait qui est à la tête du film, qui va se battre contre ce jeans là, et puis elle, c'est une femme un peu ronde qui se sent pas trop à sa place dans ce magasin là qui présente des vêtements un peu
intéressant.
Ouais,
c'est le fun, ça.
Donc c'est ça, on dit que les visuels du film vont s'inspirer des motifs multicolores, des magasins Uniqlo et American Apparel. Multicolores et très...
Cool.
Ouais.
Ça m'intéresse, ça. Ça explique ma curiosité. Ben, je me rappelle que l'affiche m'a marqué, sinon je m'en serais pas souvenu. Mais je trouve ça bien intéressant.
Ouais.
Ça pique ma curiosité,
ben,
pour vrai.
Oui, j'ai vraiment hâte de voir ça. Puis là, c'est très embryonnaire comme projet, que
ça peut être très long. Les processus, particulièrement au Québec, sont longs, mais, suivre le dossier.
C'est une très bonne nouvelle. Cette semaine, on dévoilait la bande-annonce de Our House.
Tabarnouche, qu'on connecte.
Ah ouais?
T'as embarqué vite, mais je m'en allais te couper pour te demander si t'avais des nouvelles de Our House. Je voulais l'entendre parler.
Sérieux?
Tabarnouche qu'on connecte.
Wow, c'est un film canadien, pour t'en parler rapidement, qui va être présenté en grande première mondiale dans la prochaine édition de Fantasia. Donc, c'est un film qui est quand même très attendu, qui est réalisé par Anthony Scott Burns, qui nous a donné le segment Father's Day sur le film d'anthologie Holidays.
Ah ouais,
je
sais
pas si t'as vu ça.
Je pense que je l'ai pas vu au complet. Il me semble que je me suis endormi dessus.
Ça se peut, parce que
je me souviens pas des volets.
Tout bon.
Ouais,
mais celui-là, Father's Day était quand même, c'est quand même un des forts du lot, parce que c'était un film qui explorait toutes les fêtes du calendrier, donc Saint-Valentin, Noël, blablabla.
Je me souviens pas si je l'ai vu.
Donc c'est un remake, juste pour te donner un peu d'historique, c'est un remake d'un film de science-fiction très underground de 1990 que personne n'a vu, qui s'appelle Ghost from the Machine, qui parle d'un jeune génie qui invente accidentellement un espèce de dispositif qui amplifie les activités paranormales qui se déroulent dans une maison familiale, qui ramène ainsi les esprits d'être chers puis les esprits d'être moins chers, mettons.
Fait que mettons un esprit à 100 pièces puis un esprit à 2 pièces et demi.
Ouais, c'est pas trop dans ça.
Ah, c'est ça. Ah, ok, excusez.
Écoute, tu revois le film.
Ça là, je pense que c'est la... Aïe, aïe, ok. Je pense que ça, c'était la... C'était la plus belle façon dont on m'a dit « ferme ta gueule » de toute ma vie. Je te l'accorde, ça, Marc, aujourd'hui. C'était vraiment beau.
Mais c'est un beau compliment. Juste rapidement, pour te dire, ça met en vedette Nicolas Peltz, qui on a vu dans Bates Motel, la série. Une petite blonde là, qui était amie avec le pas fin.
T'as tous les beaux mots pour
moi. J'ai tous les bons noms aussi. Thomas Mann, qu'on a vu dans Amityville, The Awakening, et Ansel in Gretel, Witch Hunters.
Je l'ai pas vu. C'est-tu bon, ça, le Gretel?
Je l'ai pas vu, ça ne m'intéresse aucunement.
Mais moi non plus, mais des fois, il y a des belles surprises. C'est pour ça que je demandais d'un coup que j'avais passé à côté de quelque chose.
Non,
mais
c'est vraiment pas mon genre de film.
Je pense pas, moi non plus.
Écoute, on parlait tantôt de cinéma québécois. Je fais une petite parenthèse pour te dire que sur Horreur Québec, on a été invité à se rendre sur le plateau de tournage de Blood Quantum. Je t'ai déjà parlé de ce film-là. C'est un film de zombies.
En fait, la réalité, c'est que on a été invités aussi, mais nos horaires nous permettaient pas, fait qu'on n'a pas fait de suivi. Mais je suis content que t'en parles, parce que j'étais vraiment triste de pas pouvoir en profiter de cette invitation-là. J'ai hâte d'entendre ce que t'as à dire.
Écoute, je peux pas t'en parler personnellement, malheureusement, parce que j'y étais pas.
C'est pas toi qui étais allé sur place.
C'est Jean-François et Dany qui ont eu la chance
d'aller... On les salue.
Oui, exactement, sur le plateau de tournage, qui était, je crois, à Pierrefonds. Là, ça se déplace partout dans la province.
Bien sûr.
Il y a quelques semaines. C'était sûrement pour te dire que, en fait, fait, Blood Quantum, c'est le prochain film québécois de zombies, ouais. Qui est réalisé par Jeff Barnaby, qui se trouve en fait à être une suite à son film Rhymes for Young Ghouls.
Ah, je l'ai pas vu ça.
Qui est un film quand même très underground, là, qui, que sûrement t'es pas le seul à pas l'avoir vu. Moi non plus, je l'ai pas vu, je l'avoue. Et puis, c'est un film autochtone, donc ça traite un peu
ça,
de...
c'est cool.
Oui, oui, ça traite parce de ce sujet-là.
C'est ça, on dirait qu'il y a, il y a une petite effervescence au cinéma autochtone depuis quelques années qui commence tranquillement à faire sa place, grandement poussée et motivée par des petits festivals de cinéma autochtone qui commencent à apparaître. Puis c'est très cool, ça. Moi, c'est ça qui a piqué ma curiosité. Film de zombies, je suis comme... Ouais, ok, on verra bien.
Mais là, le petit
côté, c'est ça. Mais le petit côté autochtone, oups, ben là, je m'excuse, mais c'est un cinéma que je connais pas ou que j'ai vu une fois, peut-être deux fois. Ça m'intéresse beaucoup, puis j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils peuvent amener de différent qu'on n'a pas vu.
Puis évidemment, le synopsis fait un peu un parallèle avec l'histoire autochtone, puis tout ça, puis c'est ce qui est intéressant dans Blood Quantum. Puis donc, en fait, ce que je voulais dire, c'est que sur le site, on a présenté la semaine dernière une entrevue avec le réalisateur qui nous parle un peu de sa vision du film sur le plateau de tournage. Donc, c'est une entrevue un peu sur le vif.
Cool.
Et aujourd'hui, ce matin, on a publié la deuxième partie de ce rapport-là, en fait, sur le plateau de tournage.
Ah, cool.
Avec les Blood Brothers, qui sont des spécialistes en effets spéciaux au Québec.
Parmi les top au Québec. Oui, oui. On a une couple de vedettes au Québec. Là, Rémi Couture aussi en fait partie. Ça. Blood Brothers, c'est vraiment des kings d'effets spéciaux aussi.
Puis ils ont travaillé sur Turbo Kid, Game of Death, puis Les Affamés, donc c'est quand même
pas mal les trois derniers gros films d'horreur du coin. Hein?
Ben oui, exactement. Puis je voulais juste mentionner que si ça intéresse les gens, vous pouvez aller lire ça. Surveillez aussi le site. Je te donne un petit cue parce que jeudi, on va donner des passes pour aller voir Hereditary qui sort le 8 juin prochain.
Ah, cool, ça.
Donc, c'est un film très entendu.
Ben
avec,
oui, on a hâte de voir ça.
Tony Collette, les attentes sont excessivement élevées. J'ai du temps jaser encore.
T'as le temps pour une petite dernière. Ouais, ouais, vas-y.
Écoute, le prochain film de Jordan Peele qui nous a donné Get Out l'an dernier, ça va s'appeler Us, puis Us US.
Ouais.
Donc, nous. C'est déjà annoncé pour le 15 mars 2019, donc c'est quand même pas dans 3 ans, là, tu sais, ça s'en vient. Puis, en ce moment, il y a la distribution qui commence à se construire tranquillement. Puis, il y a l'actrice mexicaine... là, je vais massacrer son nom, je m'excuse. Lupita Nyong'o.
Lupita Nyong'o.
Ouais.
OK.
En fait, que tu connais de toute façon, qui a gagné un Oscar pour son rôle dans 12 Years a Slave en 2014.
OK.
Donc, qui confirme qu'elle se joint à la distribution officiellement. Puis, si les autres se confirment, donc on parle de Winston Duke qu'on a vu récemment dans Black Panther, Elizabeth Moss qu'on voit présentement dans The Handmaid's Tale, qui sont présentement en négociation. Donc, si tous ces gens-là embarquent, ça va être un casting excessivement solide pour le prochain film de Jordan Peele. On sait pas encore trop de quoi ça va parler, mais on sait que ce sera encore une critique sociale semblable un peu à ce qu'il nous avait donné avec Get Out, qui va évoluer autour de deux couples, donc un couple noir et un couple blanc. Et c'est tout ce qu'on sait pour le moment.
Cool.
Donc, à surveiller.
Nice. Ben, merci. Mettons que tu as une nouvelle affaire en une minute, ce serait laquelle?
Écoute, je suis sûr que tu aimes Nicholas Winding Refn.
Ouais, ben, je connais un peu, mais ce que je connais, j'aime.
Qui est le réalisateur de Drive, en fait, qui nous a donné aussi son film d'horreur, The Neon Demon, il y a quelques années.
C'était très bon, ça.
Qui a présenté aujourd'hui le teaser de son prochain projet, en fait, qui se trouve à être une série télévisée exclusive à Amazon Prime. Qui s'appelle
c'est lourd
qui s'appelle Too Old to Die Young. C'est excessivement intéressant, t'es revoir les images, c'est du Refn tout craché.
Okay.
Et également dans le synopsis on dit qu'on explore les dessous criminels de Los Angeles en suivant les péripéties existentielles de personnages qui veulent passer d'un statut de tueur à celui de samouraï. Je sais pas si tu as vu Only God Forgives. Ça me rappelle
un peu
des thèmes qui touchaient à ça. Tu regarderas Only God Forgives. C'est un de ces récents qui est, dont on parle moins. On parle tout le temps de Drive, mais Only God, c'est
j'ai vu Drive, j'ai vu Neon Demon, mais j'ai rien vu d'autre. C'est ça.
Ah, ben tu loueras ça, Only God Forgives. Puis c'est, en fait, IMDb annonce pour 2018, d'autres sites 2019, on ne sait pas encore, mais ça s'en vient
encore flou.
Très, très prochainement.
Hey, excellent. Marc, c'est toujours un honneur de te recevoir aux
Oubliettes. Merci de nous recevoir. Merci,
merci beaucoup. Donc, pour tout ça et encore plus, bien sûr, on vous invite à visiter le site de horreur.québec. Merci beaucoup pour toutes ces actualités. Merci à Olivier pour avoir nommé un film au début de l'émission.
C'est pas ça que je vais louer celle-là.
Pour Marc Party.
C'est lourd. Il y a deux aussi, je pense. Hein?
Oui. Il y avait pas, c'était pas André Water qui se faisait le soundtrack du premier.
On fait un double bill avec Olivier, le 1 puis le 2.
Ah oui. Je cherche toujours des nouvelles activités à pas aller, anyway. Ceci étant dit, merci beaucoup d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine. On va se quitter aujourd'hui avec Demonica, tirée du soundtrack de Demons 2, une suggestion de Olivier composée par Simon Boswell. Merci à vous d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine aux Oubliettes sur choc.ca.